Hier soir avait lieu le match de rugby Pays de Galles-France. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. En tout cas, moi je l'ai vu, j'adore le rugby. Et en plus, c'était un beau match. Il y avait du jeu, il y avait de la tension, il y avait du suspense. Jusque dans les dernières minutes, on ne savait pas qui allait gagner. Enfin, c'était vraiment très agréable à voir. Je ne sais pas, peut-être que vous détestez le rugby ou le sport de manière générale. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment, c'était un grand moment. Et puis à la fin, on a gagné. Alors je dis « on », je devrais plutôt dire l'équipe de France, hein, mais je suis un peu chauvin quand je regarde le rugby. Parce que c'est un jeu et ça fait du bien, quoi. Tant que c'est un jeu, c'est sympa. C'est de la compétition, il y a deux équipes qui s'affrontent, il y en a qui sont heureux, d'autres qui sont déçus à la fin. Mais à la fin, il y a toujours une haie d'honneur, les vaincus qui font la haie d'honneur aux vainqueurs, et puis ensuite les vainqueurs qui font la haie d'honneur aux vaincus, c'est toujours émouvant à voir. Voilà, tant que c'est un jeu, c'est vraiment très très sympa à regarder, je trouve, en tout cas. Mais parfois, la vie n'est pas qu'un jeu, parfois c'est plus compliqué, parfois le combat va au-delà du simple plaisir d'être ensemble, parfois c'est une lutte sans fin, et parfois ça va même jusqu'à la volonté ou la réalité d'éliminer l'adversaire, de gagner contre l'autre, en écrasant l'autre, en supprimant l'autre. La vie, parfois, est ainsi faite que ce n'est plus du jeu du tout. Et que nous sommes dans des temps de compétition, et que ce soit en famille, dans la société, en église parfois, nous usons beaucoup de force à nous battre les uns contre les autres. Et alors, il y a une grande question, c'est comment faire pour ne pas sombrer dans quelque chose qui ne serait plus du jeu, mais qui serait la vraie réalité mortifère du combat les uns contre les autres. Et c'est en pensant à ça que j'ai lu le texte de la lettre aux Éphésiens, l'extrait que Marie vient de nous lire, dans lequel il est affirmé cette phrase que nous répétons souvent, parce qu'elle est si importante, il y a un seul baptême. Que les chrétiens soient protestants, catholiques, orthodoxes, d'une quelconque dénomination, c'est le même baptême, parce que c'est le même Seigneur, et donc c'est la même Église. Il y a des cultures différentes, des manières différentes de célébrer, il y a parfois du passif entre certaines églises et d'autres églises, il y a parfois du combat et de l'agressivité, mais il y a cette affirmation centrale dans le Nouveau Testament, dans ce passage de l'Épître aux Éphésiens, il y a un seul corps. Un seul corps, c'est-à-dire une seule Église. Il y a une seule Église, un seul Saint-Esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Voilà ce que dit le texte biblique, une parole essentielle, fondamentale, indiscutable, puisqu'elle est dans le texte biblique, même si l'histoire des églises montre qu'il est si difficile de vivre vraiment cette unité qui est donnée. Cette unité qui est donnée pour tous, puisque ce même Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est cet homme venu de Dieu qui a passé sa vie à aller à la rencontre de ceux qui étaient mis à part, de ceux qui étaient exclus de la société, de ceux qui étaient sur le bord de la route, parce qu'ils étaient impurs selon les canons de la société de l'époque, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment compétents, qu'ils n'avaient pas le bon âge, qu'ils n'avaient pas le bon sexe, qu'ils n'avaient pas la bonne nationalité, enfin toutes les raisons humaines de faire en sorte qu'on élimine les autres. Le Christ est venu les chercher pour qu'ensemble, le même Seigneur soit celui qui rassemble dans son amour inconditionnel tous ceux qui sont à sa suite. C'est un passage fondamental. Ça nous dit à la fois l'unité en Jésus-Christ et l'universalité de cet accueil pour tous. C'est le contraire d'une compétition, en fait, hein, qui nous est dit dans ce texte. Et ça devrait suffire, il suffirait de lire ce texte, et puis il n'y a pas besoin de prêcher après. Alors je pourrais m'arrêter là. Certains seraient soulagés en disant « il n'est pas trop long aujourd'hui ». D'autres pourraient se dire « il n'a pas beaucoup bossé en fait hein ». Alors pour éviter cette deuxième impression, je me dis « voilà, c'est indiscutable ce que dit le texte biblique. En Christ, nous sommes unis et nous sommes accueillis dans un amour universel. C'est indiscutable. Mais voilà, la question, elle est maintenant « comment le vivre en fait ?». Et je voudrais retenir quatre enseignements que je trouve dans ces quelques versets que nous venons de lire. Le premier enseignement, la première dimension qui me touche, qui me parle, c'est que je reçois dans ce texte un appel à vivre de la grâce, à vivre de manière gracieuse, comme étant le cœur de notre foi. La lettre aux Éphésiens, c'est une lettre qui a été écrite à la fin du 1er siècle par un homme qui se disait dans la mouvance de Paul, dans la tradition portée par Paul, et il écrit à une époque de transition. C'est un moment où il y a à la fois la première génération qui disparaît et puis l'installation du coup des communautés chrétiennes dans la durée. Et la question de garder la mémoire, d'organiser l'Église, de pouvoir continuer à vivre et partager l'Évangile, elle est tout à fait concrète à ce moment-là. Et donc il y a des chrétiens qui sont à Éphèse, dans cette ville qui est en Asie mineure, donc dans l'actuelle Turquie, qui reçoivent cette lettre, une lettre très importante. Toute la première partie de cette lettre est une sorte de grand chant de reconnaissance pour la grâce que Dieu nous fait. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu, dit cette lettre au deuxième chapitre. Parole fondamentale. Toute la première partie, c'est pour dire merci pour cette grâce de Dieu. Et puis toute la deuxième partie de la lettre, c'est pour en tirer les conséquences éthiques, relationnelles, entre les chrétiens, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'Église, que ce soit en famille, enfin les rapports sociaux qui sont renouvelés par cette grâce de Dieu. Et puis juste à l'intersection de la première et de la deuxième partie, il y a ce passage que nous méditons ce matin et qui vient nous parler directement, ce soir pardon, excusez-moi, que nous méditons ce soir et qui vient nous parler directement à l'endroit où nous avons parfois de la difficulté à vivre et qui nous propose une voie, un chemin. Versets 1 et 2. Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humble, doux et patient. C'est un programme de vie, hein ? Être humble, doux et patient. L'humilité, c'est ce qui fait que nous regardons pas simplement à nous-mêmes, mais nous regardons à d'autres que nous-mêmes, et que nous regardons les autres que nous-mêmes comme ni supérieurs ni inférieurs, mais aussi valables que nous. Nous faisons place à quelqu'un d'autre. La douceur, c'est la manière d'être en relation qui fait aussi place à l'autre, qui n'est pas dans l'agressivité ou le vouloir battre l'autre, mais de le respecter, d'essayer de progresser ensemble, dans la sérénité, dans la confiance. Et puis la patience. La patience, c'est aussi ce qui fait place à l'autre dans son rythme propre, qui est peut-être pas le mien, qui peut-être a besoin de plus de temps que moi, ou alors peut-être que c'est moi qui ai besoin de ce temps aussi pour pouvoir avancer et progresser. Humilité, douceur, patience. On voit bien que ce sont des valeurs qui sont complètement à contre-courant de ce que notre société nous demande de vivre. Il faut être le plus performant possible, le plus rapide possible, le plus compétent, le plus, quoi. Et puis on voit bien combien ça peut créer de difficultés, de souffrances, de tensions, parfois de désespérance. Humilité, douceur et patience, nous sentons bien au fond de nous-mêmes qu'il y a là quelque chose qui est beaucoup plus fondamental et que c'est une offre de vie qui nous est faite bien plus importante, bien plus essentielle. À l'image de Jésus d'ailleurs, qui passe sa vie dans la patience, l'humilité, la douceur, à aller à la rencontre de tous ceux qui en ont besoin. Et je me dis qu'il y a là quelque chose de très important. Essayer de vivre cette douceur, cette patience, cette humilité, c'est-à-dire faire place aux autres, dans des relations justes et sereines, c'est une manière de vivre la foi, c'est une expression de foi. C'est-à-dire exprimer sa confiance en Dieu. Si nous avons suffisamment confiance en Dieu, alors nous pouvons avoir suffisamment confiance pour faire un peu de place à d'autres qu'à nous-mêmes. Nous pouvons vivre ensemble avec d'autres que nous-mêmes. Nous pouvons penser que Dieu aime les autres comme il nous aime nous-mêmes. Voilà la première dimension que je trouve importante dans ce texte. Cet appel à vivre selon l'Évangile qui nous est donné comme un cadeau, en fait, à vivre. Deuxième point que je trouve important dans ce texte, c'est que ce que je viens de développer, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas des mots, C'est quelque chose qui nous est mis devant nous pour que nous le vivions vraiment, personnellement. Il y a quelque chose dans tout l'Évangile, toute l'Écriture, qui n'est pas simplement une culture ou des traditions ou des rites ou des valeurs, mais qui est bien plus profond. Un appel à une existence personnelle, à une vocation, on pourrait dire. Que chacun puisse entendre ce que cela dit pour lui, cet appel du Christ. C'est ce que dit la lettre, hein, versets 6 et 7. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Si on parle de manière très très générale de douceur, d'humilité, de patience, on peut passer pour un doux naïf. Si on se dit que c'est quelque chose que nous sommes invités à vivre soi-même personnellement, alors ça devient quelque chose de plus fort, de plus interpellant, de plus bousculant, de plus profond. C'est pas simplement une généralité, c'est pour chacun. C'est pas simplement une universalité pour tous, c'est pour moi. Il y a comme un jeu dans ce texte entre le tous et le chacun. Nous sommes tous au bénéfice de l'amour universel du Christ, mais ça prend sens quand je le reçois pour moi. Nous sommes tous appelés, et c'est chacun qui peut ou qui va répondre. Nous sommes tous en Église, mais chacun a sa place, sa singularité, sa particularité, sa personnalité, son don, son engagement. Et ça aussi, c'est une forme de la foi, cet engagement que chacun peut prendre vis-à-vis de lui-même et de son Dieu pour, en Église ou dans le monde, trouver la juste expression de sa foi. Tel geste, telle responsabilité, tel don, tel dévouement, telle présence, chacun invité à répondre à l'amour de Dieu qui est pour tous, mais qui est pour chacun. Troisième dimension, on pourrait penser que quand on dit tous, généralité, quand on dit chacun, individualité, on a tout dit, mais alors il manque quelque chose. Il manque la relation entre les personnes. C'est pas simplement un grand tout ou une succession d'individualités, c'est ce qui se joue entre toutes ces personnes qui est importante. La place pour la relation, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'auteur de la lettre écrit, au verset 2 et 3, « Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Supportez-vous les uns les autres. » C'est un de mes versets préférés, parce que c'est tellement difficile. C'est extrêmement difficile de supporter les autres, en fait. Hein. Parce que la plupart des gens sont insupportables. J'en connais un dans cette salle particulièrement. Je le vois tous les matins dans ma glace, quand je me regarde. Nous sommes chacun de nous, des fois, insupportables à nous-mêmes aussi. Et parfois même, c'est quand nous sommes insupportables à nous-mêmes que nous avons de la peine à supporter les autres. En tout cas, c'est extrêmement difficile de supporter les autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas doux, patients et humbles. Moi non plus, d'ailleurs. Et donc, nous aimons bien plutôt être dans notre zone de confort que d'être dérangés par ceux qui sont différents. Voilà, c'est dur de supporter les uns, de se supporter les uns les autres. Mais voilà, quand l'auteur de la lettre aux Éphésiens parle de se supporter les uns les autres, il ne parle pas de ça, en fait. Il parle du sens étymologique du mot « se supporter ». C'est-à-dire porter par en dessous, se soutenir, tenir l'autre par en dessous, c'est-à-dire se porter mutuellement les uns les autres. Il ne nous demande pas, même si c'est quand même important de prendre sur soi pour supporter les autres dans le premier sens, mais il nous demande plus fondamentalement d'être des supporteurs les uns des autres. Et c'est pour ça que j'ai pensé au match de rugby. Parce que c'est tellement important, les spectateurs qui sont là et qui supportent leur équipe, qui poussent leur équipe. Ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Ceux qui ont vu le match hier soir, ça se jouait à Cardiff et les supporters gallois sont très puissants, mais pourtant, leur équipe a perdu. Mais se supporter les uns les autres, c'est ça, en fait. C'est être soutien mutuel. C'est-à-dire être soutien de celui qui est faible. Ça peut être l'autre, ça peut être moi, ça peut M'engager à soutenir quelqu'un d'autre, ça peut m'engager aussi, et parfois c'est plus difficile, à accepter d'être soutenu par quelqu'un d'autre. C'est ça l'Église en fait. On pourrait dire que l'Église, c'est un grand club de supporters, où les uns et les autres se supportent les uns les autres, se portent mutuellement, s'entraident, sont solidaires, sont frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est ça l'Église. C'est pas une somme d'individualité, c'est pas un grand tout, c'est des relations de support mutuel, les uns pour les autres. Quatrième dimension, en fait. Donc, je vous rappelle que la première dimension, c'était se laisser porter par cette grâce qui nous invite à vivre dans la douceur, l'humilité, la patience. La deuxième dimension, c'était de se dire, voilà, c'est une généralité pour tous, mais c'est chacun qui est appelé à vivre cela. La troisième dimension, c'est se dire que nous vivons cela ensemble et que nous pouvons nous entraider les uns les autres, nous supporter mutuellement. Et alors, il y a une quatrième dimension, parce que peut-être que certains, à ce moment-là, se disent « c'est bien beau ce qu'il est en train de nous dire, mais c'est quand même tellement difficile à vivre. » Alors comment faire? Moi qui ne suis pas parfait, moi qui ne suis pas un saint, moi qui ne suis pas un héros de la foi, comment est-ce que je peux vivre ça? Il y a parfois des moments difficiles, il y a parfois des épreuves, il y a parfois des choses qui nous empêchent de pouvoir vivre dans la sérénité et la confiance. Nous ne sommes pas des modèles, nous ne sommes pas parfaits. Et c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, la plupart des personnages bibliques, peut-être même tous, sont imparfaits. Les disciples de Jésus, les premiers, sont pourtant les disciples, les apôtres, sont souvent des hommes qui n'ont rien compris, ou qui comprennent de travers, ou qui comprennent selon leur propre intérêt, et pas selon la parole du Christ. Ce sont des êtres comme nous. Et c'est pourtant eux que Jésus a pris comme disciples. Et puis, si quelqu'un écrit une lettre aux Éphésiens pour insister sur le fait qu'il faut être uni, et il insiste lourdement là-dessus, c'est très certainement que les Éphésiens n'étaient pas unis. S'il les appelle à se supporter les uns les autres, c'est très certainement qu'ils avaient besoin d'entendre ça. Ils n'étaient pas parfaits. Ça s'adresse à nous, non pas dans notre perfection, mais dans nos fragilités. Et là, nous touchons le cœur de l'Évangile, la source de tout. C'est que ce n'est pas au bout de nos performances et de nos mérites que nous rencontrons Dieu. Dieu est là avant. C'est ce que dit tout ce passage. C'est Dieu qui vous a appelé deux fois dans le passage. L'unité est donnée par l'Esprit Saint. C'est sa paix qui vous lie les uns aux autres. C'est Dieu qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Et ce que chacun peut vivre, c'est un don que le Christ lui a généreusement accordé. Chaque fois, c'est bien Dieu qui est à l'origine. Dieu n'est pas à l'horizon, Dieu est à l'origine. Ce n'est pas nos capacités qui nous permettent de vivre ça, c'est notre disponibilité à l'Esprit-Saint. Et ça, c'est essentiel. Se laisser trouver de la place pour que nous puissions laisser Dieu nous rejoindre, nous arrêter, se poser, être disponible. Il y a une phrase de la règle des sœurs protestantes de Pomerol, près de Tarascon, qui dit ceci: « Ne cherche pas à faire le bien, sois en Dieu, et le bien tombera de ta vie comme le fruit mûr tombe de l'arbre. » Ne cherche pas à faire le bien, sois simplement en Dieu. C'est un appel à la disponibilité, à la prière, on pourrait dire. Parce que la prière, c'est ça, finalement. C'est trouver un espace. C'est pas aligner des mots et combler et combler et parler et parler. Je vais m'arrêter dans quelques secondes. C'est faire espace pour qu'un autre nous parle. Parfois on l'entend. La plupart du temps, on l'entend pas avec les oreilles, mais on peut le sentir. La plupart du temps, peut-être qu'on ne sent pas grand-chose, mais c'est ainsi qu'il nous parle. Une lecture d'écriture, un temps de méditation, un moment de prière, un temps de partage, un dialogue de soi-même avec Dieu. De soi-même avec Dieu, avec les autres aussi, prier ensemble, de prier les uns pour les autres, c'est une manière de se supporter mutuellement. Bref, prier, c'est refuser de vivre la vie comme étant simplement une compétition, où le meilleur va écraser le plus mauvais, en tout cas selon les standards d'une compétition, mais c'est jouer ensemble, vivre ensemble, faire en sorte que chacun gagne. C'est ça l'Évangile. Et de cela, nous sommes des supporters inconditionnels de cet évangile qui nous invite à vivre ensemble. La prière, c'est aussi s'engager dans ce que nous prions, c'est faire en sorte que ce monde puisse être un peu meilleur, que nous puissions être chacun et ensemble des signes, des instruments, un avant-goût du royaume de Dieu, ce royaume qui nous rassemble déjà dans l'unité que nous donne le Christ. Amen.